reprise conclusive de ce que Anne nous a enseigné, puis de ce qui a été échangé entre nous. Et puis une petite introduction à la rencontre suivante, donc dans une semaine. Donc, Anne, d'abord, je te disais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai découvert plein de choses en t'écoutant, et notamment que l'homme est un être parlant, il est fait pour parler, et pour parler, il faut un souffle, et on a bien sûr compris qu'il s'agissait du souffle physique, mais aussi du souffle spirituel, de l'esprit de l'homme, quoi, de l'esprit humain, sans même parler de l'Esprit Saint, qui déjà est comme la porte pour nous animer. Et donc, de par notre nature, de par la création, nous sommes des êtres qui sont faits pour parler, portés par l'esprit, par un esprit. Et du coup, ma question, Gérald, c'est le prophète Jérémie, tous les prophètes, mais aussi notre propre prophétisme, comme chrétien, ne révèle-t-il pas ce qu'est l'homme au plus profond de lui-même ? Et souvent, on pense que le prophète est une sorte d'homme à part, un homme qui n'est pas vraiment un homme, ou une espèce d'homme à part. Et en fait, est-ce que ce ne serait pas l'inverse ? C'est-à-dire que celui qui est à part nous révèle ce que nous sommes vraiment, de par notre création. Des hommes faits pour donner la parole, parler, portés par le souffle.
J'ai une belle question presque.
Je vais rajouter quelque chose. Vous avez aussi que le prophète, il pouvait être homme ou femme, il pouvait être juif ou païen. Alors ça, dans les catégories bibliques, quand on dit juif et païen, homme et femme, c'est universel. Puisque les païens qui n'est pas juif. Et femme qui n'est pas homme, et inversement. Vous me ferez assassiner par certains lobbies, mais c'est pas grave. Vous avez dit par ailleurs que ce prophète est un homme de la parole et qu'il doit porter la parole. C'est exactement la définition que donne aussi Deutéronome au chapitre 18. Le prophète est celui qui reçoit la parole et qui la donne au peuple. Du coup, ma question, c'est est-ce que le prophète est un transmetteur ? Un peu comme nous avons des machines qui reçoivent des emails et qui, quand on fait transférer, on transfère l'email en le diffusant à des milliers de personnes. Donc est-ce que le prophète est juste un transmetteur de paroles ? Nous-mêmes, est-ce que nous sommes du coup des transmetteurs de paroles ? On a un bagage, on a des connaissances qu'il faut transmettre aux générations suivantes ou à l'ensemble de la population ?
Non, il y met de l'âme.
Comment ?
Il y met toute son histoire.
Exactement.
Il y met toute son histoire.
Exactement. Et c'est tout son être qui est touché, et c'est toute son histoire qui est saisie, depuis le ventre de sa mère jusqu'à sa mort. Toute son histoire est saisie par la parole qu'il reçoit, et il la transmet par tout son être. Il fait des gestes, il épouse une prostituée, enfin, c'est des choses vraiment incroyables, qui saisissent vraiment sa vie au plus profond. Et c'est toute sa vie, depuis sa conception jusqu'à sa mort, qui dit la parole, qui donne la parole.
Et ce que je trouve même très fort, on parlait du risque de Dieu, c'est que Dieu va prendre le risque de prendre un homme qui va avoir une perception, donc à travers le prisme de son histoire, pour aller dire ce qu'est Dieu. Donc, il prend le risque que ça soit cet homme avec toutes ses faiblesses, avec toute son histoire, qui va le raconter à d'autres. Avec tout ce qu'il est, avec ses mots, ses faiblesses, tout ce qui. Mais c'est pas un message copié-collé qu'il va donner. Et voilà. Et du coup, il y a multiplicité. Moi, j'étais étonnée. Je vous conseille de lire, si vous avez le temps, au moins d'emprunter pour lire les prophètes. Je me suis pas mal appuyée là-dessus. Je me disais, mais c'est dingue. On parle du Dieu d'Amos, du Dieu d'Ésaïe, du Dieu de. Et du coup, ça m'a fait penser au Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Moi, je travaille ça avec mes élèves. Je leur dis tout le temps, mais en fait, il n'y en a qu'un Dieu. Pourquoi on dit du Dieu d'Isaac, du Dieu d'Abraham ? Et très vite, dans la classe, il y a des jeunes qui disent, mais parce qu'en fait, c'est à la fois un Dieu pour tout le monde, et à la fois, c'est un Dieu qui est hyper proche de nous, hyper personnel, et du coup, qui est très intime, et on va le dire comme ça avec tout ce qu'on est.
C'est là, vraiment, c'était une attraction philosophique assez classique, assez connu. C'est en allant au maximum dans le particulier qu'on s'ouvre à l'universel. C'est que c'est en allant au plus profond de l'homme, c'est en me connaissant le plus profondément moi dans ma singularité que je peux rejoindre tout homme. Donc, parce que je rejoins l'essence même de l'être humain, et c'est quelque chose d'expérience que vous avez expérimenté vous-même, c'est en vous connaissant vous dans votre histoire, dans ce qu'elle est, que finalement vous pouvez rejoindre tout le monde. C'est mystérieux, mais c'est vraiment ça. Alors, oui, vous avez dit aussi que cet homme donc, dévore la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle n'est pas seulement quelque chose qu'il transmet, elle est d'abord quelque chose pour lui, qui le nourrit. Qui le réjouit, elle a le goût de miel, dit Jérémie.
Donc, c'est ma phrase fondatrice, celle-là.
C'est la phrase fondatrice. Donc je crois qu'il faut faire le rapport entre les deux, c'est-à-dire le fait que la parole me nourrisse vraiment et que le fait aussi que je suis transformé dans mon être même et dans toute mon histoire qui est transformée. Par la parole, mon histoire ne devient pas au carré et parfaite aux yeux des hommes, ni même aux yeux de mes propres objectifs, de mes propres critères, y compris moraux. Mais c'est toute mon histoire qui devient, parce que je dévore la parole de Dieu, qui devient parole de Dieu. Parce que je dévore la parole de Dieu, mon être le plus profond et mon histoire, avec mes défauts, on sait très bien que beaucoup de grands saints avaient des caractères de cochon, ont eu des vies très compliquées, ça n'a rien enlevé à leur sainteté, parce qu'avec ce qu'ils sont, ils sont vraiment devenus porteurs de la parole réellement. Mais c'est des personnes qui dévorent la parole. Et pourquoi dévore-t-il la parole comme du miel ? Parce que tu m'as consacré. Tu m'as consacré, dit Jérémie, donc je peux dévorer la parole comme du miel. Donc la clé, c'est cette consécration. La thèse, c'est que cette consécration, elle est universelle. C'est la consécration de chaque homme, qui passe par l'appel de quelques hommes en particulier. C'est la stratégie dite de l'élection de Dieu. Dieu choisit quelques-uns pour se dire et se donner à tous. Alors, comment comprendre cette stratégie ? Pourquoi ça ? Pourquoi Dieu prend cette stratégie-là ? Quel est le fondement ? Pourquoi il fait ça ? Comment ça se déroule ? Où on en est aujourd'hui ? Comment ça peut rendre raison du fait qu'autour de moi, il y a des croyants et il y a des non-croyants, alors que les non-croyants, ils sont beaucoup plus gentils que nous, et en plus, ils font le bien, les gagnants. Alors, comment ça se fait qu'ils sont non-croyants ? Vous comprenez mon père, virgule. Ça m'apaise un peu, ça apaise mes horribles scrupules de culpabilisation. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'il y a des non-croyants et des croyants ? Et ça se redouble encore à l'intérieur d'un ménage, dans un couple, j'ai vu ça plusieurs fois. Monsieur est croyant, madame est non-croyant, ou l'inverse. Qu'est-ce que ça. Comment. Pourquoi ça ? Le couple peut le vivre de différentes manières, et on abordera ces différentes manières de le vivre aussi, pour illustrer. Finalement les exigences de cette stratégie de Dieu de choisir quelques-uns pour se dire et se donner à tous. Et on va essayer de comprendre pourquoi Dieu n'avait pas le choix quelque part. Enfin, ou on peut dire autrement, quelle est la cohérence entre ce qu'est Dieu et sa manière d'agir par élection. Cela touche évidemment Israël, puisque l'élection elle porte sur Israël, sur Abraham et ses descendants. Donc ça va questionner notre rapport à Israël dans l'histoire du salut et aujourd'hui. Donc, je ne ferai pas de l'œcuménisme de bas étage. On restera au niveau un peu théologique et spirituel. Mais du coup, quelle est la place d'Israël aujourd'hui pour comprendre cette stratégie de Dieu de l'élection ? Et ce vis-à-vis de l'Église catholique et des chrétiens et du reste du monde. C'est un peu flou ?
Non.
C'est dommage, il faut que ça soit un peu flou. Bon, c'est pas. Donc, prophète, je suis prophète. Ben, le prophète révèle ce qu'est l'homme dans sa vocation profonde d'homme, d'être porteur de parole et de dire par tout son être et par toute son histoire Dieu lui-même.
C'est dingue quand on y pense.
Et cela, le fondement de ça, c'est notre appel, notre consécration. Tout homme est appelé et consacré, mais tout homme est appelé et consacré par l'appel, la consécration de quelques-uns dans l'histoire. Pourquoi ? Et c'est ce à quoi nous allons essayer de répondre la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Un grand merci, Anne, pour tout ça, d'être venu jusqu'ici. Bravo. La semaine prochaine, c'est elle la méchante qui va me questionner.
Tu veux, tu reviens la semaine prochaine.
Oui, j'en viens.
Tu veux garder les.